Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, SRAS, tremblante du mouton, vache folle, grippe aviaire. Épisodiquement, mais très régulièrement, nos élevages sont touchés par des épizooties qui deviennent transmissibles à l'homme. Comment y remédier? Eh bien, c'est là que le problème se corse. Faut-il abattre toutes ces bêtes par principe de précaution ou faut-il vacciner hommes et animaux? Mais la vaccination n'induirait-elle pas une possibilité de résurgence plus virulente du virus? Et le consommateur dans tout cela, lui aussi, semble un peu perdu. Dans le cas de la grippe aviaire, la population n'était pas spécialement favorable à l'abattage de poulets par principe de précaution, surtout qu'une fois cuite, la viande ne cause aucun risque. Et pourtant, ce même public boudait les volailles dans les étals des boucheries. Nous vient en tête alors la question suivante. Est-ce l'homme qui crée et favorise l'émergence de ces nouvelles maladies infectieuses? Et si c'est le cas, ne doit-il pas prendre ses responsabilités et prévenir ces épidémies plutôt que d'abattre des cheptels entiers? Doit-on avoir une quelconque affection pour ces bêtes, programmées de toute façon pour terminer dans votre assiette? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, deux invités sont dans notre studio, Barbara Dufour et Anne-Marie Brisebard. Mesdames, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous avoir rejoint au studio de Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Barbara Dufour, pour vous présenter, vous êtes enseignant-chercheur en maladies contagieuses et épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort, correspondant de l'Académie d'agriculture. Vous avez participé à l'écriture de l'ouvrage Épidémiologie appliquée à la lutte collective contre les maladies transmissibles majeures, publié en 96 mais avec de nombreuses rééditions aux éditions Maison Alfort et traduit en plusieurs langues. Et Anne-Marie Brisebard, vous êtes anthropologue, directeur de recherche CNRS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, dirigé par Philippe Descola, et vous travaillez sur le rapport de l'homme à l'animal et du statut que nous lui conférons. Faut-il donc abattre des élevages par principe de précaution lors d'épidémies pouvant porter atteinte à l'homme, telles que le SRAS, la vache folle, la grippe aviaire? Pour commencer, la première question s'adresse à l'une de vous deux. Parlons un peu de l'histoire de ces épidémies. Donc effectivement, nous parlons de grippe aviaire, de vache folle, de SRAS. Il y a des épidémies qui ont été pratiquement éradiquées, comme la rage par exemple. Alors comment avons-nous réussi à éradiquer cette épidémie? Barbara Dufour.
Pour la rage, nous avons réussi avec beaucoup d'efforts, hein, puisque historiquement la rage, je vais passer la période antérieure, la période pasteurienne de rage, où on avait une rage canine en France, et où, grâce à beaucoup de chance, grâce aussi sans doute aux mesures de prévention très simples qui faisaient que les gens évitaient de se faire mordre par des chiens, grâce également aux vaccins mis en œuvre par Pasteur, la rage canine a progressivement disparu en France. Par contre, en 68, la rage est revenue par les renards, par l'est de la France, et elle a progressivement envahi en une quinzaine d'années tout le quart nord-est de la France. Et donc, il y avait de la rage dans les campagnes, et on a voulu lutter contre cette rage. Alors, pour en venir à bout, en fait, on a réussi à éradiquer cette rage vulpine en mettant ensemble deux types de méthodes. D'une part, une vaccination orale des renards, donc on s'est intéressé à essayer de prémunir ces animaux sauvages, mais cette prémunition n'a été efficace que parce qu'on a eu aussi, parce qu'on a employé conjointement des techniques de dépopulation de ces renards. C'est-à-dire qu'on a aussi limité l'extension de ces populations pour pouvoir les vacciner efficacement. Et c'est grâce à ces deux mesures, c'est-à-dire des mesures de dépopulation, des mesures d'abattage, oui, si vous voulez, dont on vient de parler, d'un côté pour diminuer ces populations sauvages qui sinon se développaient d'une manière importante, et d'autre part, on vaccinait ces populations par des vaccins distribués sur le terrain, des appâts vaccinaux, hein, si vous voulez, que les renards mangeaient naturellement. Grâce à ces deux mesures appliquées pendant quand même plusieurs années sur le terrain, on a vu la rage vulpine, la rage du renard, reculer et puis disparaître de France. Donc vous voyez bien dans cet exemple qui me paraît effectivement très intéressant, dans une première période, avant qu'on dispose de ces vaccins, on s'était contenté de tuer les renards et ça n'a pas été efficace, ça n'a pas été suffisamment efficace. Ça a limité très vraisemblablement les contaminations aux animaux domestiques et donc possiblement les contaminations à l'homme par l'intermédiaire des chiens et des chats qui se seraient trouvés en contact avec ces renards enragés. Donc on a paré au plus pressé, c'est-à-dire protéger les animaux domestiques et donc l'homme. L'objectif était bien de protéger la santé publique, mais on n'a pas réussi à véritablement éradiquer la maladie. Pour l'éradiquer de France, parce qu'elle existe encore malheureusement dans les pays de l'Est, pour l'éradiquer de France, il a fallu mettre en place deux types de mesures en même temps. D'un côté, les réductions de population pour éviter que ces populations se développent trop, et de l'autre, comme elles n'étaient pas trop développées, on pouvait les vacciner efficacement.
Alors là, on parle d'un virus qui était directement transmissible à l'homme. Dans le cas de la grippe aviaire, le virus se transmettait, mais là, à l'heure actuelle, donc nous sommes en 2008, on recense 180 cas dans le monde de personnes atteintes par ce virus de la grippe aviaire. Alors, faut-il justement abattre ces animaux si on n'est pas encore certain que ce virus peut se transmettre à l'homme ? Anne-Marie Brisbard ou Barbara Dufour ? Barbara Dufour.
Alors là, on passe sur un tout autre plan. Effectivement, vous avez parfaitement raison de dire que les mesures d'abattage, d'une part, enfin les mesures de lutte d'une manière générale contre la grippe aviaire, ne sont pas à l'heure actuelle des mesures pour préserver la santé publique, parce que la santé publique est concernée, mais elle l'est dans une très moindre mesure.
Et pourtant, on a vu des gens qui se ruaient vers les pharmacies acheter du Tamiflu, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais là, après, il y a un problème d'inquiétude. On pourrait revenir sur ce problème-là, mais qu'il faut bien déconnecter, me semble-t-il, de la partie santé animale. Les animaux, malheureusement, comme les hommes, vivent aussi des épizooties qui leur sont totalement propres. Si on parle de la fièvre aphteuse, par exemple, c'est une zoonose tellement mineure qu'on la considère comme une maladie non transmissible à l'homme. Donc, c'est bien un problème de santé animale. En grippe aviaire, on est exactement, me semble-t-il, pas tout à fait exactement, mais on est pratiquement dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on est dans le cas d'une maladie extrêmement grave pour les oiseaux et surtout extrêmement contagieuse. Et là, si on abat des animaux, c'est pour éviter la dispersion de la maladie. C'est pour éviter que la contagiosité de cette maladie fasse qu'au lieu d'avoir un, voire deux foyers, vous savez qu'en France, en 2006, nous avons eu un foyer dans la faune domestique, alors que nous avions beaucoup de foyers dans la faune sauvage, une soixantaine de foyers recensés dans la faune sauvage. Nous n'avons eu qu'un seul foyer dans la faune domestique parce que nous avons pris ces mesures sans doute extrêmement drastiques et très douloureuses pour les éleveurs. Ça, je pense que Anne-Marie Brisbard pourrait en parler mieux que moi. Très douloureuses pour ces éleveurs, mais très importantes pour la communauté des autres éleveurs. C'est-à-dire que l'abattage collectif des animaux doit être vécu comme un outil sociétal et non pas individuel. Évidemment, c'est traumatisant pour les éleveurs individuellement. C'est aussi quelque chose qui, légitimement, compte tenu, j'allais dire, de l'affection naturelle que développent à la fois les éleveurs d'une part vis-à-vis de leurs animaux, mais également la population générale, hein, qui est de plus en plus proche des animaux, qui se préoccupe de plus en plus de leur sort. Donc, ça provoque une émotion, mais il faut se rappeler que ces mesures d'abattage doivent être prises dans un souci de protection collective. Et là, en l'occurrence, si on a abattu cet élevage, qui d'ailleurs était condamné par lui-même, parce que c'est une maladie quand même qui tue beaucoup les oiseaux, la grippe aviaire. Donc les quelques malheureux qui n'étaient pas atteints n'étaient pas très nombreux. Mais si on a abattu ces oiseaux très rapidement, très vite, et qu'on les a détruits, c'est pour éviter de contaminer d'autres élevages, compte tenu de cette extraordinaire contagiosité du virus.
Et justement, cette maladie très contagieuse, on n'en entend plus parler alors qu'on avait justement ce risque, cette angoisse que ça contamine le monde entier.
Oui, certains avaient ce risque et cette angoisse, d'autres l'avaient un peu moins. Oui. Je tiens à dire que la grippe aviaire n'a pas disparu du monde, puisqu'elle est encore présente en Asie, elle est encore présente en Afrique, mais que grâce à des mesures très contraignantes de ce qu'on appelle la biosécurité, c'est la protection des élevages vis-à-vis de la faune sauvage, parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe sur des oiseaux. Ils se déplacent librement, c'est heureux comme ça d'ailleurs, et ils transportent malheureusement, ça c'est moins heureux, un certain nombre de virus. Donc on ne pourra sans doute pas échapper au fait que de temps en temps il y aura des réintroductions de ce virus, mais on peut espérer que du moins dans nos pays, nous avons les moyens de mettre en place ces méthodes de biosécurité des élevages. Les contacts entre faune domestique et faune sauvage seront réduits, et donc le risque pour les élevages domestiques sera limité. Et vous avez dit tout à l'heure en introduction quelque chose sur lequel je veux absolument rebondir.
Ah, oui.
Il vaut toujours beaucoup mieux prévenir que guérir. Oh. Toujours, toujours. Mais il faut aussi faire attention aux méthodes employées pour la prévention et la prévention entre guillemets médicale, c'est-à-dire qu'une vaccination systématique qui pourrait être une alternative à l'abattage. En fait, on pourrait analyser le fait que ça n'en est pas une, mais ça pourrait éventuellement être perçu comme en étant une. Cette vaccination systématique n'est pas praticable dans un très grand nombre de cas, ne serait-ce que pour des raisons pas uniquement économique, mais également de manipulation des animaux. Je veux dire, donc on ne peut pas imaginer, d'abord on ne peut pas imaginer vacciner contre tout, c'est pareil pour les gens hein, aussi. Donc il faut réserver ces vaccinations à des situations très particulières. Et je voudrais quand même rajouter également que quand on noie une population animale ou une population humaine sous une vaccination, on a beaucoup plus de mal à savoir après si le virus ou la bactérie circule.
Anne-Marie Brisbard, vous avez travaillé sur le rapport que les éleveurs entretenaient avec leurs animaux. Ce sont des animaux, dans certains types d'élevage, enfin l'élevage pour la viande, ce sont des animaux qui sont voués à être mangés, donc voués à la mort. Oui. Et pourtant, ce sont des éleveurs qui étaient touchés lors de ces épidémies, qui étaient touchés lors de l'abattage de leur cheptel.
Oui. Vous dites les animaux pour la viande, mais même les animaux, par exemple, producteurs de lait, oui. Quand ils sont réformés, ils vont aussi dans votre assiette.
Oui.
Donc la destinée des animaux d'élevage est en réalité l'abattoir dans la très grande majorité des cas. Et c'est vrai que pour les éleveurs, cela fait partie du calendrier de la vie. Hein. C'est-à-dire, on élève des animaux, enfin, on les fait naître. Quand on est un éleveur naisseur, on les fait naître, on accompagne toute leur vie, on essaye de les faire vivre le mieux possible. C'est d'ailleurs la meilleure façon d'obtenir des bons résultats avec ces animaux. Et puis à la fin, eh bien, ils vont à l'abattoir et il n'y a pas de sensiblerie, mais dans la mesure où l'élevage continue, puisque dans un élevage, sauf dans certains élevages industriels, où là, on va abattre l'ensemble du cheptel parce que c'est un élevage en bande, c'est-à-dire que l'éleveur reçoit, n'est pas naisseur, il reçoit des petits veaux ou il reçoit des petits cochons qui sont tous au même âge. Aussi les volailles, il va recevoir des poussins, il va les élever pendant un certain nombre de jours, de semaines, ça dépend du type d'animaux, et puis il va arriver un moment où les animaux vont être prêts à partir à l'abattoir, on va venir chercher tous ces animaux, on va désinfecter les bâtiments et on va ramener une autre
bande. Une nouvelle vague.
Mais dans l'élevage qui n'est pas ce type d'élevage, eh bien, là, il va toujours rester des animaux et la vie va continuer. Et les animaux qui restent sont la mémoire du troupeau et l'éleveur est un sélectionneur. Il se rappelle même de certains animaux qui sont partis à l'abattoir. Moi, j'ai fait un film sur la transhumance et quand je projetais mon film bien longtemps après qu'il ait été tourné, les éleveurs me disaient, parce qu'ils avaient certains de leurs animaux qui avaient des noms, ils me citaient les noms des animaux. Les animaux qui étaient partis à l'abattoir depuis déjà longtemps.
Alors à la fois, nous sommes dans la consommation de cette viande et parallèlement nous leur donnons des noms, nous leur voilà, nous leur donnons une carapace humaine pratiquement.
Oui. Non, pas une carapace humaine. Les animaux sont des animaux, mm-hmm. surtout pour les éleveurs. Les éleveurs, même s'ils considèrent certains que leurs animaux, ça fait partie de leur famille, ils ne confondent pas entre leur famille humaine et leur famille animale, disons, si on peut dire, si vous voulez, parce que certains le disent. Hein. Et puis quand ils vont fabriquer avec ces animaux des produits, du lait, de la viande, par exemple, la viande, c'est vivant, la viande. C'est une autre forme du vivant. Ce n'est pas du cadavre, la viande. C'est une matière qui se transforme par le biais de l'abattage, mais qui est une matière noble et qui est productrice pour les consommateurs de santé, de vie. Et c'est comme ça qu'il faut l'envisager.
Barbara Dufour.
Oui, je voudrais rebondir sur les propos d'Anne-Marie Brisbard parce que je les partage complètement et je n'ai pas du tout son expérience, son étude de ce genre de problème, mais j'ai simplement mon vécu de vétérinaire en contact avec des éleveurs. J'ai travaillé longtemps pour des associations d'éleveurs et je peux certifier que la très très grande majorité des éleveurs aiment leurs animaux. Mais ils ne les aiment pas peut-être tout à fait de la même manière que certaines personnes des villes aiment leurs chiens ou leurs chats. Ils aiment les animaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des animaux qui d'ailleurs leur permettent de vivre, donc il y a une véritable gratitude et une reconnaissance par rapport à ces animaux. Ils aiment les animaux parce qu'ils aiment les manipuler. Moi, j'en parle facilement parce que je partageais cette affection quand j'ai fait de la clientèle. J'aimais être avec des vaches, j'aimais être dans une étable avec des moutons, dans une bergerie. avec des cochons aussi. J'aimais ce contact avec des animaux, avec un vivant qui n'est pas celui de l'homme, qui est un autre vivant, qui est véritablement l'animal pour ce qu'il est. Et la très grande majorité des éleveurs sont ce qu'on appelle des bons éleveurs, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien les besoins de leurs animaux, qui savent les manipuler, qui les manipulent avec un véritable sens animalier. C'est d'ailleurs assez impressionnant à observer de temps en temps. Effectivement, ils sont tout à fait capables, sur une photo, sur un film, ça ne m'étonne pas du tout, de reconnaître la vache Blanchette, qui était une très bonne productrice de lait, ou qui lui a fait des veaux merveilleux, parce que c'est ça aussi un animal, c'est pas simplement quelque chose, et qui naturellement, j'allais dire, presque comme nous, nous terminons notre vie au cimetière, très naturellement terminent leur vie à l'abattoir.
Donc ce ne sont pas de purs produits.
Non, ce ne sont pas uniquement. Bien sûr, il y a sûrement des éleveurs pour qui ça l'est, mais la très grande majorité des éleveurs ne vivent pas leur troupeau de cette manière-là.
Est-ce que vous parlez, pardon Anne-Marie Brisbois, mais vous parlez effectivement des tables, d'images assez bucoliques. Il y a aussi des élevages industriels avec l'élevage en batterie.
Oui, mais l'élevage en batterie, venez le voir, ça n'est pas un cauchemar. Ça n'est pas un cauchemar. Ce sont des animaux simplement qui sont groupés dans des lots importants. On a beaucoup, l'émission n'est pas là-dessus, mais on a beaucoup fustigé l'élevage industriel. Je vous assure qu'aujourd'hui, avec les différentes normes européennes en particulier qui sont rentrées en application, allez visiter une maternité de truies et vous allez voir un très grand bâtiment, très bien ventilé, avec des animaux qui sont libres, puisque les truies à l'attache sont interdites maintenant, avec des marées de petits cochons à côté, mais dans des cases individuelles. Vous allez trouver une sérénité là-dedans, véritablement. C'est pas du tout ce qu'on nous raconte.
J'imaginais peut-être les poules, vous savez, qui n'ont que pour objectif de manger les graines qui sont devant
elles. Non, mais c'est pas ça du tout non plus. En élevage de volailles non plus, véritablement. Bien sûr, l'objectif est que les animaux grossissent pour terminer à l'abattoir, c'est vrai. Ça n'est pas du tout une image dans la très grande majorité des élevages. Là encore, il y a des exceptions, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Dans la très grande majorité des élevages, les animaux, d'ailleurs, s'ils ne sont pas bien, comme vous l'avez dit, Anne-Marie, les animaux ne grossissent pas, ne produisent pas. Donc, les éleveurs ont tout intérêt à ce que leurs animaux soient le mieux possible.
Oui, c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'élevage et les bonnes pratiques d'élevage et les bonnes pratiques d'abattage. Parce que ce qui fait qu'un éleveur accepte le destin de ces animaux qui vont à l'abattoir, c'est qu'il sait que si lui, comme il le dit, la mort n'est pas son métier, je reprends le titre de l'ouvrage de Jocelyne Porcher, il sait qu'à l'abattoir, il va y avoir des gens dont c'est la spécialité de tuer en faisant souffrir le moins possible les animaux, avec une réglementation qui est extrêmement drastique sur comment faut-il faire de façon... Et d'ailleurs, pour que la viande soit bonne, il faut que les animaux soient tués bien et sans stress. Sans ça, vous avez sur la viande des choses qui montrent que l'animal a été mal tué et la viande, à ce moment-là, est de mauvaise qualité.
Je vous propose de marquer une première courte pause dans la deuxième partie. Nous parlerons peut-être plus en détail du rapport entre l'homme et l'animal au cours de l'histoire, puisqu'en préparant cette émission, vous avez évoqué les rapports entre l'homme et l'animal au Moyen-Âge. C'était très intéressant, j'aimerais qu'on en reparle. À tout de suite.
Canal Academy vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années, ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission, elle est en libre écoute sur Canal Academy.
Suite de notre émission, toujours en compagnie de Barbara Dufour et de Anne-Marie Brisbar, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler du rapport de l'homme à l'animal et de l'évolution qu'il a pu y avoir entre ces deux parties. Et je vous propose de commencer par des images que nous avons tous vues, notamment pendant cette période de vache folle, où nous avons vu des photos ou même des images à la télévision de cadavres d'animaux de vaches, carrément retirés par tractopelle. Et ce sont des images qui nous ont tous choqués. Est-ce que l'émotion, justement, traduit un rapport entre l'homme et l'animal qui a changé au cours des années? Voilà, c'était ma question. Anne-Marie Brisbar.
C'est-à-dire, c'est certain qu'entre un gros animal comme la vache, un gros mammifère et un humain, il y a une proximité physionomique et physiologique qui fait que il n'y a pas une différence.
On s'identifie, vous voulez dire ?
On s'identifie, bien sûr. Et d'ailleurs, la mort de l'animal, on le dit bien pour les enfants de la campagne. Les enfants, ils étaient les naissances d'animaux et la mort des animaux, c'était pour eux un apprentissage de la vie humaine. Hein, et ça faisait partie de ces rites de passage qui formaient les enfants, alors que maintenant, tout ce qui est du domaine, par exemple, de la mort humaine est caché dans les hôpitaux, hein, et qu'on est extrêmement sensible, du coup, à toute mort. Donc, voir ces vaches, parce que la vache, en plus, elle a, pour n'importe quelle personne, et en particulier les urbains, c'est cette bonne vache aux yeux si doux, c'est la productrice de lait, c'est le rapport à l'enfance, c'est quelque chose de symboliquement très fort. Hein. Et voir ces cadavres de vaches poussés au tractopelle, mis dans des foyers, c'est vrai qu'en plus, vu la plupart du temps, pendant que toute la famille est à table aux informations télévisées, après avoir vu ces vaches qui tremblaient, qui arrivaient pas, qui tombaient, ça a été le rôle des médias, c'est vrai, sur cette maladie l'encéphalopathie spongiforme bovine qu'on a appelée la maladie de la vache folle, ça a été terrible de découvrir ça.
Hein. Mais vous pensez justement, pour parler des médias, qu'ils ont joué leur rôle ou qu'ils ont fait du zèle?
Ah, vous savez, les médias, ils sont toujours à la recherche du sensationnel.
Et pourtant, les images n'étaient pas, comment dire, il n'y avait pas de photomontage pour les photos, il n'y avait
non,
pas
ça
de,
veut pas dire qu'on de peut tout coupure montrer. Montage. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout montrer. Pourquoi est-ce qu'à partir du 19e siècle, on a enfermé la mort des animaux, la mort des animaux de boucherie à l'abattoir, alors qu'avant, les bouchers tuaient dans la rue, y compris à Paris, où vous aviez souvent des abattages jusqu'au début du 19e siècle. Vous aviez des abattages, le boucher, hop, il avait un animal qui était devant sa boucherie, et puis pof, il le tuait. Il y avait une croyance comme quoi la violence envers les animaux, disons la vision de la violence envers les animaux, pouvait amener les humains à être violents entre eux. Et c'est une des raisons pour lesquelles, avec à côté la raison d'hygiène, parce qu'il fallait arrêter de faire ça dans la rue, qui a fait se développer ces abattoirs qu'on mettait aux portes des villes et dans lesquels on cachait la mort des animaux de boucherie au regard en particulier des citadins.
Parce que ça nous rappelait notre propre mort.
Parce que c'est violent, parce que toute mort, même la mort animale, et en plus à l'époque... On procédait quand même, on ne peut pas dire qu'il y avait une véritable spécialité de donner la mort aux animaux. Hein, tout boucher était tueur, ce n'était pas vraiment des spécialistes. Ça ne se passait pas toujours très bien. Et puis les bouchers, d'ailleurs, quelquefois, c'est eux qui se retrouvaient blessés ou tués.
Barbara Dufour, sur ces images de charniers.
Je crois qu'il faut bien faire la différence entre un animal vivant qui a droit à tout le respect pour le vivant et qui a droit à ne pas souffrir, etc. Et donc, comme l'a dit Anne-Marie Brisbard, la nécessité de l'abattre dans des conditions les plus correctes possibles pour lui. Et puis, un cadavre. Ce sont deux choses absolument différentes. Et malheureusement, pour l'homme aussi, hein, ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Alors, il est évident que les images projetées à l'heure du dîner de carcasses traînées par des tractopelles ne peuvent être qu'extraordinairement choquantes puisque ça nous renvoie à notre propre image de que serons-nous après la mort. Mais de même que si on allait filmer en ouvrant un cercueil un corps un mois après son décès, de même que certaines images de guerre ou de charniers sont particulièrement traumatisantes, enfin moi elles me traumatisent plus d'ailleurs personnellement que des images de tractopelles sur des cadavres animaux, toutes ces images sont extraordinairement choquante. Faut-il les montrer? Faut-il montrer le travail des embaumeurs de corps humain après la mort? Faut-il montrer tout ça? Je ne suis pas sûre de ça. Simplement, une chose est sûre, c'est quand on a un certain nombre de carcasses qui ne sont pas consommables parce qu'elles n'ont pas été abattues dans des conditions d'hygiène leur permettant cette consommation, parce qu'il s'agit par exemple d'animaux malades et qu'en France, on ne consomme pas d'animaux malades, ce qui est un bien, il faut bien, quelque part, se débarrasser de ces carcasses. Alors, soit on les emmène à l'écarissage et on ne voit pas, parce que l'écarissage est un lieu fermé, mais si on filmait l'intérieur d'un écarissage, je vous garantis qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui, au moment du repas à table, seraient peut-être un peu choqués de ce qu'ils voient. parce que ça nous rappelle que nous sommes, nous, de chair, d'os, et qu'un jour, cette chair et cet os vont s'éparpiller. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, ça nous rappelle tout ça. Donc, ce sont des choses choquantes, et à la fois, ce sont des choses qu'il faut affronter. Et je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie Brisbard en disant que les gens de la campagne affrontent ce genre de choses, beaucoup plus que les gens des villes. Et ça explique peut-être pourquoi cette émotion et pourquoi il y a une distorsion qui s'installe entre la compréhension de ce qui est fait à la campagne, qui est proche de la nature, qui est quand même plus proche de la nature que ce qui est vécu en ville, et de ce que la manière dont reçoivent les gens de la ville, qui sont maintenant extraordinairement protégés dans notre société, de toute chose pouvant leur rappeler qu'ils sont mortels.
Vous voulez dire que les gens de la ville ont le cœur peut-être moins accroché que les gens de la campagne ?
C'est pas de leur faute, hein. Je pense qu'on leur accroche beaucoup moins leur cœur dans les conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Je vais pas revenir sur un débat sociétal, mais qui me tient à cœur, hein, qui est celui de l'éloignement de la mort, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on ne montre plus les morts, où on ne veille plus les morts, où les gens meurent loin de chez eux, à l'hôpital, on ne les voit plus, ils partent tout de suite. Donc, je veux dire, il y a une espèce d'éloignement vis-à-vis des choses de la mort qui font que, forcément, quand les gens y sont confrontés, ils sont extrêmement choqués, ils ne sont plus habitués. Et ça nous rappelle terriblement, difficilement, alors qu'on essaye de l'oublier en essayant de se rajeunir tous les uns les autres, qu'un jour, ça va se terminer comme ça, malheureusement, pour chacun de nous.
Sur l'évolution du rapport entre l'animal et l'homme, en préparant cette émission, vous aviez toutes les deux une discussion assez animée sur le rapport de l'homme et de l'animal au Moyen-Âge, et justement de leurs droits et de leurs devoirs. Anne-Marie Brisbard, vous évoquiez justement le procès que l'on pouvait faire à un porc, par exemple, au Moyen-Âge.
Oui, il y a eu des procès, c'est-à-dire un porc, par exemple, qui avait tué, ce qui arrivait, pas fréquemment, mais qui arrivait quand c'était les enfants qui étaient les petites servantes, par exemple, qui allaient porter la nourriture du porc dans l'auge, qui trébuchait, qui tombait, le porc, il se précipite sur l'auge, il mange, et puis si le gamin est tombé dans l'auge, il y a eu des choses comme ça. On jugeait le porc comme si il était responsable des dégâts qu'il avait faits, de la mort de cet enfant. Donc, il y a eu aussi des procès au moment du Moyen-Âge qui étaient faits à des chenilles qui avaient envahi un verger, par exemple, et puis qui avaient détruit la récolte. Et on faisait un procès aux chenilles, on faisait un procès aux taupes. Il y a eu tout un tas de choses comme ça. Mais bon, est-ce que ça voulait dire qu'on ne faisait pas de différence entre les hommes et les animaux qu'on prenait les animaux pour des créatures de Dieu, peut-être pas au même niveau que l'humain, mais quand même pour des créatures de Dieu qui devaient se comporter d'une certaine façon. Et du coup, les nuisibles, normalement, leur façon de faire, c'est d'être nuisibles. Hein, c'est ce qu'on appelle les nuisibles. C'était pas accepté, quoi. Donc, on faisait ce genre de choses.
Barbara Dufour.
Oui, c'est sans doute une contrepartie du droit de l'animal. C'est-à-dire que si on s'oriente vers un droit de l'animal, normalement, il devrait y avoir des devoirs. Et le devoir est un devoir de bon comportement. Ce qui, évidemment, ne signifie rien. Parce que, comme l'a dit Anne-Marie Brisbard, les animaux, ils se comportent dans leur biologie à eux. Et une taupe, sa biologie, c'est d'aller sous terre et puis de remonter des mottes de terre, ce qui gêne les gens qui cultivent des jardins.
Mais de là, lui faire un procès.
Faire un procès. Alors, chacun est dans sa propre espèce et chacun défend sa propre espèce. Donc, l'homme défend son espèce à lui, qui fait qu'il a envie de jardiner et pas envie d'avoir de taupe. Et la taupe défend comme elle le peut. C'est-à-dire qu'elle ne défend rien du tout, mais elle essaye de continuer à faire des trous dans la terre.
Il y a, par exemple, il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Par exemple, chez les protecteurs des animaux, il y a beaucoup de gens qui sont protecteurs du loup et qui disent que les impératifs biologiques du loup, c'est de manger les brebis. Mais les impératifs biologiques des brebis, ce n'est pas d'être mangé par le loup, c'est de pouvoir manger tranquillement dans l'herbe.
Mais c'est la chaîne alimentaire.
Quant à l'éleveur, là où il se place, le berger qui est dans la montagne avec son troupeau et qu'on lui dit c'est normal qu'il faut laisser le loup vivre là où vous amener votre troupeau depuis des générations et c'est croquer vos brebis par le loup et on vous dédommagera. Mais ce qu'on ne dédommagera pas, c'est la perte affective de cet éleveur qui a des brebis, qu'il élève peut-être que son père, il les a héritées de son père et de son grand-père, et la perte génétique. Parce que quand un éleveur est un sélectionneur et qu'il voit partir ses brebis comme ça, mangées par le loup ou poussées par le loup dans un ravin où il en meurt beaucoup plus que celles qui auraient été mangées par le loup, c'est une perte qui n'est pas compensée simplement par le prix de la brebis.
Vous voulez dire que l'éleveur, quand il voit qu'il lui manque une brebis, il dit « mince, j'ai perdu
une
perte génétique ».
Il tient à ses brebis, donc il a toujours l'œil pour voir s'il n'y en a pas une qui s'est égarée. Et c'est vrai que si depuis des générations, on est en train d'élever une race de brebis en la sélectionnant, eh bien forcément, quand il perd ses reproducteurs, mâles ou femelles, il y a une perte génétique, il y a un échec de son métier.
Moi, je voudrais revenir là-dessus, puis raccrocher au début de notre sujet sur les abattages,
oui,
etc. Parce que je crois qu'il faut prendre en compte parfaitement le traumatisme individuel que peut subir un agriculteur, enfin un éleveur en l'occurrence, quand on est obligé d'abattre son troupeau pour cause d'une grande maladie contagieuse, soit contagieuse pour l'animal, soit contagieuse pour l'animal et pour l'homme. Cela dit, les éleveurs sont des gens qui ont, par habitude et par histoire, l'habitude de raisonner un peu plus collectivement. Et la plupart d'entre eux sont parfaitement capables d'intégrer et d'accepter qu'on détruise ce troupeau, nonobstant le traumatisme individuel qu'ils vont réellement vivre et qui est bien au-delà d'une compensation financière. Hein. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Hein. S'ils comprennent bien que ce qu'ils font est pour la communauté des éleveurs, entre autres. Et on a très rarement des difficultés pour faire admettre à un éleveur qu'on doit abattre son troupeau parce que son troupeau est très contagieux pour les autres. La plupart du temps, ils l'admettent, la mort dans l'âme, bien sûr, mais ils l'admettent parfaitement bien parce qu'ils se sentent faire partie d'une communauté qui est celle des autres
éleveurs.
Même
en cas d'abattage par principe de précaution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animal touché dans son cheptel, mais il est dans un périmètre
dangereux. Je voudrais dire un mot là sur ces abattages de principe de précaution. Premièrement, ils ont été quand même relativement peu pratiqués. Ils sont possibles dans la réglementation et d'ailleurs, il est souhaitable qu'il soit possible, de manière à pouvoir éviter une grande épizootie. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour ces éleveurs-là. C'est beaucoup plus difficile que pour les éleveurs qui ont des cas cliniques, parce qu'ils n'ont pas de cas cliniques. Mais les quelques fois où ça s'est passé, les éleveurs l'ont accepté. L'abattage ne s'est pas fait avec l'armée présente, des fusils et une contrainte de la force publique. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé après avoir discuté avec l'éleveur, après avoir soutenu l'éleveur. Et il faut accompagner les éleveurs dans cette démarche, le vétérinaire praticien, mais le directeur des services vétérinaires le fait également, le responsable du groupement de défense sanitaire qui représente les éleveurs. Et là, tout le monde est présent pour essayer de le soutenir parce que c'est un moment très difficile. Mais quand il y a eu des abattages préventifs, et ça s'est toujours fait dans un tout petit nombre de fermes en proximité immédiate des foyers, quand on fait un abattage préventif, c'est parce qu'on pense que le virus ou la bactérie sont déjà présentes dans l'élevage et que les signes cliniques vont démarrer le lendemain. Et ça, l'éleveur, si on lui explique, il est capable de le comprendre.
Mais ce n'était pas forcément l'image que l'on pouvait avoir pour la vache folle. On avait cette image-là.
La vache folle est sans doute une exception regrettable.
Par contre, alors, quand on désigne l'éleveur à qui ça arrive comme un mauvais éleveur, parce que au lieu de le voir comme la victime qu'il est, parce que la plupart du temps, il est une victime, on le prend pour responsable et on dit par exemple, ils ont rendu leurs vaches carnivores, ils leur ont donné des farines animales, donc les gens savent pas. En plus, et les gens ils avaient l'impression quelquefois que la vache elle avait mangé de la viande, quoi, littéralement, hein. Ils savaient pas ce que c'était. Et on parlait de vaches carnivores, de vaches cannibales, c'est-à-dire de pratiques contre nature, d'éleveurs véritablement qui faisaient des choses qui faisaient que c'était normal qu'il lui arrive cette maladie, et c'était presque que le jugement divin qui faisait que... Alors qu'en réalité, ces éleveurs sont... S'ils ont donné des farines de viande des dos qui sont, on pourrait expliquer, mais qui ne sont pas de la viande, mais une récupération de parties de corps traitées, etc. Pour avoir les sels minéraux, les protéines animales, c'est parce que la science zootechnique a fait des recherches et leur a dit « il faut que vous fassiez comme ça ».
Oui, moi je voudrais rebondir juste un instant là-dessus. Hein. Premièrement, tous les ruminants, et j'allais dire que tous les herbivores, à un moment ou à un autre, ont besoin de protéines animales et sont donc en partie carnivores. En particulier, pratiquement toutes les femelles mangent la délivrance de leurs produits.
Hein. Mais c'est le vétérinaire qui parle.
Voilà, tout à fait. Et donc, dire qu'on a rendu les vaches carnivores, non seulement c'était une image, mais là encore, je rejoins Anne-Marie Brisbard, hein, c'est sans doute le sensationnel qui fait vendre, hein, mais ça fait beaucoup de mal aussi. Hein. Dire ça, c'est un non-sens. Tous les animaux, tous les êtres vivants ont besoin, enfin les mammifères bien sûr, ont besoin de protéines animales. Et donc ils les trouvent naturellement et il faut les apporter dans l'alimentation quand on est quand on ne laisse plus, pour des raisons aussi d'hygiène et pour des raisons de transmission de maladies, les animaux consommaient eux-mêmes leur délivrance. Hein. Tout ça, c'était absolument, les éleveurs n'avaient... Évidemment, il y a quelques éleveurs qui ont fraudé, ça arrive toujours. Mais il ne faut pas non plus là que l'arbre cache la forêt. La très grande majorité des éleveurs qui se sont trouvés en butte à des cas de vaches folles s'y sont trouvés parce qu'ils ont appliqué des techniques qui étaient en cours à ce moment-là. Et c'est de la faute de personne, y compris pas des gens qui ont préconisé ces méthodes, si effectivement un agent pathogène totalement inconnu, totalement nouveau, le prion c'est quelque chose de totalement différent d'une bactérie ou d'un virus, si cet agent pathogène était résistant à des températures incroyables, à des conditions de pression incroyables. Je crois qu'il n'y a pas eu de faute véritable dans cette affaire. Et la société actuelle tend toujours à chercher un coupable. Pas un responsable, un coupable. Et il n'y avait pas de coupable dans cette histoire. Ni les scientifiques qui ont dit que finalement c'était assez intelligent d'utiliser des déchets animaux en les transformant d'une certaine manière pour apporter des protéines animales à un coût pas cher, pour éviter que les protéines animales nobles consacrées à l'homme soient consacrées à l'animal. Ni les éleveurs pour avoir respecté ces pratiques, ni les zootechniciens pour les avoir préconisées. Personne n'est responsable de ça.
Dernière question avant de marquer une deuxième courte pause. Est-ce que cette affaire, justement, dans l'encéphalite spongiforme bovine, n'arrivait pas, justement, après l'affaire du sang contaminé? Et de ce fait, eh bien, par principe de précaution et pour donner une bonne image vis-à-vis du grand public, eh bien, on a peut-être abattu plus qu'il ne fallait.
Ah oui, mais moi, je partage complètement votre avis là-dessus. Absolument, complètement. C'est-à-dire
qu'on a fait du zèle, quand même.
On a fait de l'hyperzèle. C'est l'histoire du balancier. C'est l'histoire du balancier qui a été dans un sens malheureux pour le sang contaminé et qu'on a voulu ramener toute force de manière très extrême de l'autre côté, avec là-dedans, alors là il y a quand même quelques, si ce n'est coupables, moins responsables, quelques modèles épidémiologiques, malheureusement, qui ont montré des choses incroyables. Avec des milliers d'hypothèses, on arrivait à montrer qu'il y aurait, si on prenait les hypothèses les pires, jusqu'à 200 000 cas humains, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, y compris en Grande-Bretagne où les gens ont consommé beaucoup, beaucoup plus d'animaux infectés et de matériaux spécifiés à risque qu'en France, puisque des mesures ont été prises beaucoup plus tardivement sur un cheptel infiniment plus contaminé. Il y a eu au total moins de 200 cas humains. C'est terrible pour ces gens-là, mais 200 cas humains sur 10 ans, ça reste un niveau de mortalité, un niveau de maladie totalement mineur.
Par rapport aux accidents de la route,
par rapport à des tas de choses.
Ouais. Je vous propose de marquer une seconde courte pause et puis nous aurons 10 petites minutes pour terminer cette émission. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Suite de notre émission, toujours en compagnie d'Anne-Marie Brisebard et de Barbara Dufour, dans cette troisième partie, on va peut-être revenir sur peut-être des méthodes alternatives à l'abattage. Vous en avez parlé rapidement, Barbara Dufour, au cours de cette émission, de la vaccination. Il y a deux types de vaccination. Là, je reprends vos propos que vous avez tenus lors d'une conférence qui avait lieu à l'Académie d'agriculture en mai 2008, à savoir, il y a les vaccins vivants et les vaccins inactivés, qui ont chacun des intérêts, mais aussi des points négatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors évidemment, il existe des tas de types de vaccins différents qui ont des caractéristiques propres en fonction des maladies, etc. J'allais dire que quels que soient les vaccins, les vaccins vivants, ce sont des vaccins qui comportent un agent pathogène encore vivant, mais atténué, qui donc simule une maladie. Alors ça a pas mal d'avantages, ces vaccins-là, dans la mesure où effectivement l'immunité produite est une immunité de très bonne qualité. Ça a quelques inconvénients, c'est que souvent il y a des effets secondaires, parce qu'on simule une maladie en l'atténuant, mais elle n'est pas toujours complètement, totalement atténuée. Il y a des risques de retour à la virulence, enfin il y a toute une série de choses un peu à risque avec ces vaccins, qui sont pourtant assez efficaces. Et puis il y a d'autres vaccins qui sont des parties d'agents pathogènes, donc qui ne présentent pas de risque de retour à la virulence, qui ne présentent pas tellement d'effets secondaires, mais ils sont des fois beaucoup moins actifs sur le plan de l'immunité. Alors il faut les adjuver avec des adjuvants qui, eux, peuvent donner un certain nombre de réactions, etc. Tout ça pour dire que, quel que soit le vaccin, l'acte vaccinal n'est pas un acte bénin. Et donc, on ne peut pas vacciner, en particulier de manière massale, de manière générale, des populations entières d'animaux, ou prétexte qu'il existe un vaccin et que comme ça, on sera protégé au cas où. D'abord, une vaccination, la plupart du temps, ce n'est pas une vaccination, mais plusieurs vaccinations à entretenir au long de la vie des animaux, ce qui est, au point de vue manipulation des animaux d'une part, et au point de vue coût, quelque chose souvent d'assez considérable. Et ensuite, les risques d'effets secondaires ne sont pas du tout nuls, tant au niveau de la manipulation de ces animaux quand on les vaccine, qu'au niveau des effets secondaires seulement liés au vaccin. Donc, on ne peut pas utiliser l'arme vaccinale comme ça. C'est un produit biologique, c'est quelque chose qui doit être utilisé en raisonnant bien le bénéfice-risque de cette vaccination. Par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand on vaccine une population, on a beaucoup plus de mal à voir circuler ou non la bombe pathogène. Et quand on est indemne, dans une situation indemne, ce qui nous intéresse, c'est de le rester et de savoir si on le reste avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire savoir si par hasard l'agent pathogène a été introduit, on le voit apparaître dans un élevage, et là on peut intervenir très rapidement, alors que si tout est vacciné, quand on va savoir faire se voir que l'agent pathogène est peut-être là, il va peut-être y avoir des centaines d'élevages contaminés. À ce moment-là, si on veut à nouveau un jour arrêter cette vaccination coûteuse, qui présente un certain nombre de risques, on va se retrouver dans une situation délicate. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut s'utiliser aussi facilement que ça, et il ne faut pas opposer vaccination et lutte par abattage des animaux.
C'est pas soit l'un soit l'autre.
Très souvent, ce sont des mesures qui sont complémentaires, qui sont utilisées dans le cadre d'une stratégie d'éradication d'une maladie ou de lutte contre une maladie, qui diffère d'une maladie à l'autre en fonction des caractéristiques de la maladie d'une part et des caractéristiques des outils qu'on a en place d'autre part. Et c'est pas versus on vaccine tout et donc on n'a plus rien à abattre, ou on abat tout et on n'a plus rien à vacciner. C'est très rarement comme ça. Bien sûr, ça peut être comme ça si on ne dispose pas de vaccins ou si les mesures sanitaires sont totalement inopérantes. Mais la plupart du temps, on a les deux outils et on va essayer, comme je l'ai dit en rage en début de cette émission, de combiner ces mesures. Et c'est en les combinant de manière intelligente qu'on va aboutir aux meilleurs résultats pour lutter contre ces maladies.
Et à ce moment-là, plutôt que de vacciner les animaux, ne faut-il pas vacciner les consommateurs, à savoir les humains ? Il y aurait peut-être moins de monde de ce fait à vacciner.
Il y aurait quand même beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Ouais, il y a actuellement 20 millions de bovins, pour donner un exemple, pour les auditeurs. En France, en 2008, il y a 20 millions de bovins et plus de 61 millions de consommateurs. Ouais. Donc vous voyez que le nombre de gens à vacciner, et le vaccin, s'il n'est pas totalement bénin pour un animal, n'est pas non plus totalement bénin pour l'homme. Ouais. On ne peut pas faire des campagnes, si vous discutez avec des médecins de ça, moi je ne suis pas médecin, mais les médecins expliquent très bien qu'une campagne de vaccination massale présente toujours des risques, et c'est quelque chose qui est parfaitement bien discuté avant de décider si on rend obligatoire dans le carnet de vaccination de l'enfant, par exemple, une nouvelle vaccination. Ouais. Il y a véritablement une très grande discussion parmi les médecins, parce qu'il y a ce rapport bénéfice-risque qui doit toujours être pris en compte. Ça n'est pas un acte bénin, la vaccination.
Oui, d'ailleurs, pour les humains aussi, on a arrêté certaines vaccinations qui se faisaient à certains moments. Et quand on a su que la maladie était éradiquée, la variole, par exemple. Moi, j'ai été vaccinée contre la variole quand j'étais petite. La variole, pour les petits, pouvait donner des effets secondaires quand même importants. Et on a arrêté. Mais par exemple, pour la fièvre aphteuse en 2001, qui est venue d'Angleterre à une période où des moutons anglais étaient amenés en France, puisque c'était la période de l'Aïd el-Kébir, donc de la fête, la
sujet
fête
que
du
vous
mouton.
Avez évoqué
voilà.
D'ailleurs.
Eh bien, on a une vaccination contre la fièvre aphteuse, mais là, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les moutons anglais qui avaient la fièvre aphteuse et les moutons français qui avaient été en contact avec eux ont été, en réalité, abattus.
Mais ils étaient déjà contaminés, en fait.
Voilà, donc... oui, mais je veux dire, ils ont été abattus et c'était pas la peine de ressortir la vaccination contre la fièvre aphteuse. Pour les autres, à partir du moment où on avait fait une espèce d'isolement, disons, de ceux qui étaient contaminés, qui avaient été en contact ou qui étaient malades. Et on a comme ça arrêté cette épidémie qui était en train de démarrer, quoi.
Oui, avec un tout petit nombre de foyers, c'est-à-dire 4 foyers. Alors qu'on aurait été amené, on a abattu quelques dizaines de milliers d'animaux, c'est vrai. Mmh. On a abattu tous les moutons qui venaient de Grande-Bretagne, qui étaient potentiellement contaminés. Et parmi ceux-là, il y en avait pas mal qui étaient contaminés. Il y en a même certains qui ont contaminé des moutons français et des vaches, comme vient de le dire Anne-Marie Brisbard. On a réussi, en abattant quelques milliers d'animaux, à éviter d'en vacciner 60 millions. Parce qu'il aurait fallu vacciner les vaches, les porcs et les petits ruminants.
Donc économiquement, c'était
Non seulement économiquement, mais même aussi sur le plan de la santé de ces animaux-là. Oui. Parce qu'on parle toujours d'économique Je voudrais quand même rappeler que l'élevage a une vocation économique. La France a une vocation d'exportation d'un certain nombre de ses produits. Et c'est important. C'est pas mal, comme les médias de temps en temps ont tendance à dire « Oh là là, les éleveurs veulent faire de l'argent sur les animaux. » Mais c'est normal, c'est la vie économique normale. Cette vie, elle est normale. Hein. Mmh. Et il est bien évident que sur le plan à la fois économique et sur le plan aussi de la santé des animaux, vacciner 50 millions d'animaux, c'est quelque chose à la fois de considérable et qui présente des risques.
Est-ce l'homme qui favorise l'émergence de ces maladies infectieuses? Puisque là, je vais reprendre les propos d'Alain Philippon qui a eu aussi la parole lors de cette conférence en mai 2008 à l'Académie d'agriculture. Il évoquait les travaux publiés dans Nature en février 2008, à savoir que le nombre de maladies infectieuses augmentait avec le temps chez l'homme, dont plus de la moitié de ces maladies étaient d'origine bactérienne et 60% provenaient d'animaux sauvages.
D'abord, dire est-ce que c'est l'homme qui favorise à la fois oui et à la fois il ne faut pas être trop présomptueux. Les agents pathogènes ont une vie propre. Et cette vie, on a beau croire qu'on va en venir à bout et qu'on va tout dominer, on ne domine pas tout. Je crois que c'est une grande leçon de modestie. On a cru qu'on était venu à bout des maladies infectieuses dans les pays développés dans les années 70-80. Eh bien, le présent nous montre que c'est totalement faux. Alors, après, on peut invoquer un certain nombre de raisons à l'émergence de ces maladies. L'une de ces raisons est très probablement la circulation très importante des gens d'une part et des animaux d'autre part sur l'ensemble de la planète, où il y a malheureusement encore sur la planète de nombreux autres pays ou régions où ces maladies ne sont pas du tout éradiquées. Donc on favorise l'introduction dans des zones saines de ces agents pathogènes par cette circulation.
Donc ça, c'est la circulation de la population.
C'est la mondialisation des échanges, on peut l'appeler comme ça.
Oui.
C'est comme ça.
Oui, la rage est revenue par exemple depuis le Maroc.
De nombreuses fois.
Avec des chiens qui avaient été amenés en plus en clandestinement, puisque normalement on ne peut pas ramener un chien du Maroc en France où la rage existe sans un certain nombre de une quarantaine c'est vrai que et puis il y a aussi les produits alimentaires quelquefois
qui circulent
les produits alimentaires
et qui peuvent rapporter des agents pathogènes qui peuvent éventuellement contaminer etc. On va prendre un exemple récent qui est celui de la fièvre catarrhale ovine ou la langue bleue dont on parle beaucoup actuellement parce qu'elle a atteint le nord de l'Europe depuis 2006 et qu'elle s'est développée très largement en 2007. Actuellement, sans qu'on sache très bien comment est arrivée cette maladie, une des hypothèses qui prévaut, c'est le fait d'avoir introduit aux Pays-Bas et en Allemagne des bulbes de fleurs qui auraient porté des culicoïdes. Ce culicoïdes, c'est ce petit insecte qui transmet cette maladie et qui aurait apporté, on les aurait importés d'Afrique du Sud et d'Afrique centrale où sévit cette maladie, et on aurait importé avec ces bulbes de fleurs un grand nombre de culicoïdes infectés. Bon, voilà un exemple. Je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui. C'est une des hypothèses qui est solide, me semble-t-il, à prendre en compte pour l'introduction de cette maladie. Voilà un exemple. Alors, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est qu'en plus, nous, on a fait des animaux, comme on ne croyait plus aux maladies contagieuses, on a fait des générations d'animaux de plus en plus propres, entre guillemets, de plus en plus naïfs vis-à-vis de ces animaux. Donc, ils savent de moins en moins se défendre, qu'ils ne les ont jamais rencontrés. Et donc, effectivement, quand l'agent pathogène arrive dans une population de ce type, il a une possibilité de se diffuser extraordinaire. Ouais.
Mais quand vous repartez d'un pays africain, par exemple par avion, avant que l'avion décolle, on met un produit pour éviter que des insectes qui seraient rentrés dans la carlingue de l'avion soit transporté.
Bon, et malgré ça, on en transporte quand même, bien évidemment.
Y compris dans les bagages des passagers, parce que bon, mais c'est vrai que cette mondialisation nous amène à certains risques.
Dernière question avant de terminer cette émission. On parle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il existe aussi l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc j'imagine qu'ils doivent avoir peut-être déjà des épidémies comme ça qu'ils observent et qui ont de fortes possibilités d'arriver sur notre territoire en Europe. Lesquelles sont-elles?
L'OIE qui surveille effectivement l'apparition des maladies et qui s'intéresse beaucoup à la santé animale puisque c'est son rôle, et dont je rappelle quand même pour nos auditeurs que son siège est à Paris. Cette organisation qui a pris beaucoup d'importance au cours de ces dernières années essaye, si ce n'est d'anticiper, parce que c'est toujours très difficile de le faire, du moins de progresser dans la lutte contre des maladies qui se trouvent dans des pays en développement actuellement, pour aider ces pays, mais aussi pour protéger nos pays développés. Et donc, les grands chantiers de l'OIE, c'est bien sûr la grippe aviaire, actuellement en Asie du Sud-Est, encore en
donc
Asie du Sud-Est.
Donc, on en parle moins,
mais elle est très présente. Et beaucoup de gens travaillent pour essayer de diminuer la pression de cette grippe aviaire dans ces pays-là. Il y a une autre maladie qui est plus une maladie animale, mais qui préoccupe beaucoup l'œil, donc c'est la fièvre aphteuse, hein, qui est présente dans beaucoup de régions du monde encore et qu'on essaye de contenir dans ces régions. Alors, voilà, pour l'instant, la fièvre catarrhale ovine est une des préoccupations aussi, même si cette fièvre catarrhale ovine qui nous fait tant souffrir, nous, en Europe, est présente dans la plupart des autres continents et les gens se sont habitués à vivre avec cette maladie, malheureusement. Voilà, donc l'OIE a effectivement un rôle à jouer de surveillance, d'alerte, d'échange aussi entre les pays. Je crois que c'est très important. La circulation de l'information, c'est la base, quoi.
Et puisque la Chine avait vraiment tardé avant de communiquer sur la grippe aviaire. Merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle quand même vos fonctions respectives. Anne-Marie Brisbard, vous êtes donc anthropologue et vous travaillez au laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, dirigé par Philippe Descola. Et Barbara Dufour, vous êtes donc enseignante-chercheure au service des maladies contagieuses et épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort et correspondant de l'Académie d'agriculture. Merci de nous avoir rendu visite et j'invite nos internautes à aller sur le site internet de l'OIE justement pour en savoir plus sur la veille et la recherche dans le domaine de ces maladies infectieuses. Merci à toutes les deux et j'espère à une prochaine fois pour une autre émission. Au revoir.
Merci, au revoir.